Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. Vous écoutez La RAN, l'émission d'information locale de Canal B. Et au sommaire, aujourd'hui, l'info du jour, un collectif breton inquiet du pacte loi d'orientation de l'avenir agricole à venir. Une interview pour décrypter l'étude de l'INSEE sur la pauvreté en Bretagne. Il y aura de la musique, dont une nouveauté. Le reportage d'Antoine, bénévole, La vie au grand air, épisode 2 au campement de Morpa. Et puis, deux recommandations plutôt animales dans la région rannaise. Bienvenue dans La RAN. Comme chaque jour, on commence cette émission avec l'info du jour. La Coalition Nationale des Résistances aux Fermes Usines, RAFU, se mobilise partout en France durant le week-end à travers une vingtaine de collectifs. En Bretagne, le mouvement il est coordonné par Bretagne contre les fermes usines, un collectif qui organise donc un rassemblement samedi 7 octobre à 17h devant la préfecture de région. Au programme, pour marquer le coup, un cassé d'assiettes, symbole d'une rupture entre, je cite, la population, en tout cas une partie de la population, soucieuse des impacts de son alimentation sur sa santé et sur son environnement, et les administrations publiques responsables et complices du développement de l'agro-industrie en Bretagne. Grandes serres chauffées en hiver, élevage intensif hors sol ou encore culture destinée à la méthanisation, c'est bien l'agro-industrie productiviste qui est visée par ce collectif, modèle agricole qui, s'il est besoin de le redire, pollue l'eau, l'air, les terres et les assiettes des habitants et qui affecte aussi la biodiversité locale. L'ONG Greenpeace a publié au printemps une carte de ses fermes-usines en France avec un chiffre parlant, 60% des animaux d'élevage en France sont concentrés dans seulement 3% des exploitations agricoles. Et l'ouest de la France est un territoire moteur sur ce phénomène, puisque 70% des 3010 fermes-usines françaises sont situées en Bretagne et en Pays de la Loire. Un moratoire sur les fermes-usines, c'est ce que réclame la Coalition nationale des résistances aux fermes-usines, alors qu'au début de l'automne, les parlementaires s'apprêtent à plancher sur un pacte loi d'orientation de l'avenir agricole. Un pacte jugé structurant pour les 10 prochaines années. Une dizaine d'autres mobilisations en plus de celles de Rennes sont prévues durant le week-end en Bretagne. Plus d'infos sur le site bretagne-contre-les-fermes-usines.fr. Ça fait beaucoup de tirets. Cette mobilisation, elle m'a quand même fortement fait penser au sujet de la dernière enquête du média d'investigation breton Splend sur le sujet du foncier agricole. Je vous propose donc de réécouter un extrait de l'entretien avec Julie Lalouette-Geffroy.
L'enquête sur la guerre des champs, elle est construite en 4 chapitres à découvrir sur splend.org. L'idée forte, c'est celle que vous venez d'évoquer. La Bretagne n'installe pas autant d'agriculteurs que ce qui est fixé dans ses objectifs. En parallèle, de très grosses fermes prennent de plus en plus de place dans le paysage. On pourrait se dire, bon et alors, c'est une évolution comme une autre. Ça pose en fait des problèmes multiples.
Ben complètement. Alors d'abord, on voit une tendance générale à l'agrandissement de toutes les exploitations de manière générale. On se rend compte quand même, quand on compare le recensement agricole de 2010 à 2020, donc en 10 ans, les exploitations de plus de 200 hectares ont été multipliées par 2 dans tous les départements bretons. Alors bon, 200 hectares, ça ne parle pas trop. Mais pour essayer de se rendre compte, la surface moyenne d'une exploitation en Bretagne, c'est 62 hectares. Et on entend quand même une image d'Épinal de manière très récurrente. La Bretagne est une terre d'élevage avec une agriculture familiale sur 62 hectares. Effectivement, c'est une moyenne.
Ce que vous expliquez, c'est qu'on se dirige plutôt vers une agriculture de firme, même si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui complètement.
Exactement, c'est une tendance. Et on la voit, cette tendance un peu plus générale avec les exploitations de plus de 200 hectares. Vous parlez avec des agriculteurs, quasiment tout le monde connaît quelqu'un qui a 100 hectares, voire 200. Et après, il y a les très gros et les 1000 hectares, 1500 hectares. Et là, du coup, effectivement, on est sur une ampleur qui est complètement démesurée par rapport aux habitudes bretonnes.
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la SAFER qui le dit elle-même, c'est que cette agriculture, qui serait une agriculture de firme, ce qu'elle peut avoir de dangereux, c'est qu'elle est plus concernée par les capitaux que parce qu'elle met ce qu'elle donne dans l'assiette de ses clients. J'aimais bien cette image-là. Le premier volet de l'enquête, il cherche à caractériser ce paysage agricole breton actuel et il décrypte en fait les montages complexes qui permettent à certains agriculteurs qui deviennent de véritables chefs d'entreprise de s'agrandir à l'abri des regards. Et alors là, on plonge dans un monde de sigles EARL, SCI, GFA, GIE, SCEA. Heureusement que d'ailleurs, il y a des illustrations pour rendre ces montages complexes plus lisibles.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a une véritable ingénierie juridique en fait derrière tout ça. Et tous ces sigles-là, ce sont des formes juridiques. C'est pas pour le plaisir de faire une collection. Ça a évidemment un sens et un intérêt. L'un d'eux, en tout cas, c'est que, je sais pas si c'est l'intention des personnes qui pratiquent ça, mais en tout cas, ça empêche en fait la SAFER de pouvoir intervenir. En fait, pour pouvoir se reposer un peu le cadre, il y a deux régulateurs en France. En fait, il faut pouvoir avoir les terres. Donc là, c'est soit de la vente, soit un bail, le fermage, et aussi l'autorisation d'exploiter. Et du coup, le régulateur pour les ventes, c'est la SAFER, et pour les autorisations d'exploiter, c'est la CDOA, qui réunit les services de l'État et les représentants du milieu agricole et rural.
C'est la Commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Exactement. Et donc, si on reprend le côté SAFER sur les ventes, la SAFER peut, est un outil qu'on nous envie à l'échelle européenne, parce qu'il y a cette logique de régulation, de lutte contre la spéculation foncière, donc d'empêcher que les prix soient trop élevés, mais aussi d'orienter l'agriculture vers les objectifs de la politique agricole française. Donc ça, c'est en théorie. Et après, il y a la pratique. Et là, en fait, il y a un angle mort, mais en fait, un trou dans la raquette énorme. C'est-à-dire qu'au lieu de, si je vends une entreprise agricole en une seule fois, alors la SAFER peut intervenir, dire « Ah, le prix est trop élevé, il faut que ce soit un peu plus bas, etc. » Par contre, si je la vends en trois parties, et pour pouvoir vendre une entreprise en trois parties, j'utilise une de ces entreprises avec ses sigles compliquées, et je fais des ventes en fait par part sociale. Donc je vends une petite tranche, une deuxième, et hop. Et une vente en trois fois fait que la SAFER ne peut pas intervenir juridiquement. Elle n'a pas le droit de le faire. Et il y a quand même tout un champ comme ça des ventes qui échappent complètement à la SAFER. Et c'est comme ça qu'on arrive sur ces montages où en cumulé, on est à 1000 hectares. Et même les services de l'État, derrière, ne voient pas. Quand on leur demande combien y a-t-il d'exploitations de plus de 1000 hectares en Bretagne, on ne sait pas. On ne va pas regarder ces informations-là, ce qui pose quand même question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mettre en application une politique agricole régionale quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas le paysage agricole breton.
Après l'info du jour, on poursuit avec l'interview du jour.
Tristan Picard, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes le directeur adjoint de l'INSEE Bretagne, INSEE pour Institut National de la Statistique et des Études Économiques, qui vient de publier une étude sur la pauvreté en Bretagne qu'on va essayer de décrypter ensemble. Mais d'abord un mot sur l'INSEE Bretagne, les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais qui a un siège régional ici à Rennes. Combien de personnes aujourd'hui dans les équipes, donc à l'échelle de la région, et puis avec quel métier qui se cache derrière un institut de statistique comme l'INSEE ?
Alors donc l'INSEE en Bretagne, c'est 110 agents qui vont travailler en bureau, donc à Rennes, place du Colombier. Et on a également en fait une cinquantaine d'enquêteurs qui vont travailler sur le terrain. Alors c'est un métier qui n'est pas forcément connu, mais il s'avère que l'INSEE, en fait, on va avoir ce qu'on appelle des enquêteurs, dont le métier, ça va être d'aller chez les ménages, donc chez vous, moi, pour en fait poser des questions par rapport à des enquêtes que réalise l'INSEE. Donc une des plus connues, par exemple, c'est l'enquête emploi qui permet d'établir le taux de chômage. Et un deuxième métier de ces enquêteurs, ça va être aussi de faire des relevés de prix. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans les magasins, en fait, dans les mêmes magasins tous les mois pour relever le prix des mêmes articles, ce qui permet ensuite de produire leur indice des prix.
Avec des chiffres que je suis sûr que les auditeurs ont forcément déjà croisés, qui alimentent au quotidien notamment le travail journalistique dans les médias nationaux, mais aussi locaux. On arrive donc à ce panorama sur la pauvreté en Bretagne qui a été présenté en début de semaine, mardi 3 octobre, notamment face aux élus, aux journalistes. Et c'est en fait un travail qui a été mené sur commande de l'État. Est-ce que c'est en lien avec la situation d'inflation qu'on traverse, avec le sentiment que la pauvreté est en augmentation, ou c'était déjà lancé avant ça ?
Alors c'est un projet qui était lancé avant ça. En fait, il y a eu un dossier qui a été réalisé donc en Normandie, et suite à ça, le ministère des Solidarités a pris contact avec l'INSEE pour généraliser ce dossier à l'ensemble des régions françaises. Et donc ce travail en partenariat s'est réalisé dans une optique en fait de produire un dossier qui puisse alimenter les politiques publiques sur la pauvreté, en particulier les pactes des solidarités donc qui ont été annoncés au niveau national la semaine dernière et qui vont ensuite être déclinés au niveau local dans deux semaines.
un mot peut-être sur la méthodologie avant d'arriver au constat. Alors on le dit, l'étude elle est à retrouver dans le détail sur le site INSEE.fr. On explique un peu comment on arrive à ces chiffres, à ces taux qu'on va présenter. C'est avant tout une étude qui s'appuie sur des données dites administratives. Il n'y a pas forcément eu un travail là d'enquête auprès des gens sur le terrain.
C'est ça. Donc effectivement, l'INSEE, en plus du travail d'enquête, donc comme je vous ai parlé avec les enquêteurs ou même avec le recensement de la population, on peut aussi travailler à partir de données administratives. Donc ça peut être des données de revenus, des données de taxes d'habitation, aussi des données sociales, donc sur les aides au logement, etc., qui permettent en fait de reconstituer les revenus et derrière de calculer les taux de pauvreté, donc pour avoir une vision un peu fine et exhaustive de ce qui se passe dans les territoires.
Le constat, c'est le suivant, c'est que, alors de façon relative, la Bretagne, elle s'en sort mieux que les autres régions, elle n'est pas seule. On retrouve les Pays de la Loire en tête et ensuite donc la Bretagne qui est une région moins marquée par la pauvreté. Avant qu'on débute cet échange, je vous disais que j'avais regardé le taux il y a 10 ans, donc en 2013, qui était de 10,7%, soit 0,5 point du taux actuel. Et vous m'avez dit, c'est pas forcément comparable sur une période de 10 ans de s'appuyer sur les chiffres. Je peux vous laisser dire pourquoi.
Donc, alors d'abord, il y a un point qui est important, hein, c'est qu'on est sur la définition du taux de pauvreté, c'est une définition qui est relative. C'est-à-dire que le seuil de pauvreté est établi par rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble des ménages français.
Aujourd'hui, il est de 1120 euros par mois.
C'est ça, exactement. Alors peut-être pour les auditeurs, pour être plus précis, il faut dire que ce niveau de vie dépend de la taille du ménage. Donc pour une personne seule, effectivement, le ménage sera considéré comme pauvre s'il a moins de 1120 euros de revenus par mois. Mais si c'est un couple avec deux enfants de moins de 14 ans, bah là, c'est un niveau de vie de 2350 euros par mois. Si on est en dessous, on sera considéré comme pauvre. Ensuite, pour l'aspect méthode, effectivement, vu qu'on travaille sur des données administratives, il peut y avoir en fait des changements de concept qui ne sont pas forcément maîtrisés, comme on pourrait le faire dans une enquête où c'est l'INSEE qui choisit directement ce qu'on mesure. Et donc, c'est pour ça que nous, on privilégie vraiment le fait de ne pas faire de comparaison avec cette source-là. On est vraiment dans une logique en fait, où on fait une photographie de la pauvreté à un niveau très fin. En fait.
Les régions où le taux de pauvreté est le plus élevé, eh bien on les cite. La Corse, d'abord, avec un taux de pauvreté de 18,3%. Et derrière, on retrouve les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, proches des 17%.
On l'a dit, la Bretagne s'en sort mieux que les autres régions. À l'échelle nationale, le taux de pauvreté donc moyen est de 14,4% à l'ensemble donc des 13 régions françaises. Ici, en Bretagne, ce taux il descend à 11,2%. 11,2% de ménages qui se trouvent donc en dessous là, de ce seuil de pauvreté de 1120 euros par mois si on est un ménage d'une personne. Il y a quelques nuances selon les départements auxquels on s'intéresse. Si je vais du mieux au moins bon, l'Ille-et-Vilaine d'abord, puis le Finistère, le Morbihan et les Côtes d'Armor. Il y a deux territoires, pour le coup, très différents qui sont quand même plus concernés que les autres par la pauvreté.
Voilà, donc effectivement, la Bretagne est plutôt moins concernée que la pauvreté. Les deux territoires qui vont ressortir, en fait, ça va être le centre-Bretagne, donc où là, on est sur effectivement une logique de territoire plutôt rural, avec un taux de chômage relativement important par rapport à la région, et les grands centres urbains. Donc notamment Rennes, Brest, mais aussi Lorient, Saint-Brieuc, où là ça va être différent, c'est parce qu'on va avoir une concentration assez forte de logements sociaux, et donc on va retrouver des poches de pauvreté en fait dans ces grands centres urbains.
Même si c'est pas forcément le job de l'INSEE, est-ce qu'on a des éléments pour comprendre la situation globale, donc à savoir un taux de pauvreté moins important qu'ailleurs en France, ici en Bretagne? Il y a sûrement plusieurs facteurs.
Alors l'explication principale, c'est la bonne santé économique de la région. Donc on a un taux de chômage qui est dans les... soit on est le taux de chômage le plus faible ou le deuxième plus faible avec les Pays de la Loire, ça dépend des trimestres. Donc ça forcément, ça a un impact direct sur la pauvreté dans la région. Ensuite, un deuxième élément qui est peut-être, je pense, un peu moins important, c'est qu'on va avoir un taux de famille monoparentale en Bretagne qui va être légèrement plus faible qu'en France métropolitaine. Or, ce qu'on constate, et on pourra peut-être en discuter ensuite, c'est que ces familles monoparentales sont plus exposées à la pauvreté que le reste des ménages.
peut-être dire que la Bretagne est une région marquée notamment par le secteur agroalimentaire et aussi le secteur des services qui est bien représenté et donc un taux de chômage relativement faible de 5,7% dans la région Bretagne. Il y a aussi les mécanismes de redistribution qui la jouent, je pense, pour tout le pays, mais parce que les aides sociales sont prises en compte là, dans, pour voir si on arrive au seuil de pauvreté.
Alors effectivement, c'est un des intérêts en fait, d'avoir des données un peu exhaustives sur l'ensemble des sources de revenus des ménages, c'est qu'on est capable en fait, de calculer un taux de pauvreté avant redistribution et après redistribution. Et dans le cadre de la Bretagne, en fait, donc, vous avez mentionné le taux de pauvreté, là on est à 11,2%. Avant redistribution, on serait à un taux de 17% en fait, s'il n'y avait pas tous ces transferts sociaux. Donc c'est-à-dire que les transferts sociaux, bah, ils permettent quand même une diminution de quasiment un tiers du taux de pauvreté dans la région.
Notamment à travers les allocations au chômage ou encore le RSA, revenu de solidarité active. Alors on a le détail des publics plus sujets que d'autres à la pauvreté, c'est pas très surprenant, on retrouve les jeunes et les familles monoparentales qu'on a déjà évoquées. Familles monoparentales, je crois que c'est à 80% qui sont en fait constituées de mères de famille. On peut détailler un tout petit peu là-dessus ? C'est pas surprenant.
Non, c'est pas surprenant parce que bah, par définition, on va avoir donc moins de revenus sur des familles monoparentales, avec alors qu'en plus il y a des charges familiales. Au contraire, d'ailleurs, quand on regarde la catégorie qui est le moins concernée par la pauvreté, ça va être les couples sans enfants où là le taux de pauvreté est seulement de 5%. De même pour les jeunes. Donc les moins de 30 ans, on va avoir un taux de pauvreté à peu près à 20%. Là, en fait, on constate qu'on a un taux de pauvreté qui diminue avec l'âge, ce qui est assez logique parce qu'en général, on a plutôt une progression des revenus au cours de la vie, avec un taux de pauvreté des plus de 75 ans ou plus qui est en dessous des 10%, donc quand même nettement plus faible.
Avec cette étude régionale sur le sujet de la pauvreté, l'Institut national de la statistique et des études économiques a dessiné 6 profils de pauvreté. C'est un peu complexe d'aller dans le détail, mais vous les avez dessinés autour de ce critère central de l'accès à l'emploi. On retrouve un peu en tête de liste les ménages pauvres retraités. Ils représentent 30% des personnes en situation de pauvreté en France. Et vous souhaitiez dire un mot sur ces personnes qui travaillent et qui pourtant sont aussi en situation de pauvreté, c'est peut-être la catégorie la plus surprenante en fait pour le grand public.
Alors juste pour préciser, c'est 30% des retraités, 30% des ménages pauvres en Bretagne. Donc oui, effectivement, cette typologie qu'on a construite, on l'a faite vraiment par rapport à la question de l'accès à l'emploi. Donc c'est pour ça qu'on retrouve les retraités, donc on a à peu près un tiers. On va avoir les personnes qui ne sont pas insérées sur le marché du travail, donc plutôt au chômage ou avec vraiment un niveau d'activité très faible, donc là c'est la moitié. Et ensuite, donc 20% des ménages, donc comme un nombre qui est pas négligeable, de personnes qui travaillent mais qui sont pourtant en situation de pauvreté. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a paru important en fait d'appuyer, c'est que finalement, on peut travailler et être pauvre. Alors, qu'est-ce qui explique ça ? Ça peut être soit parce qu'on est sur du travail à temps partiel ou avec des revenus faibles, et donc qu'on se retrouve mécaniquement sous le seuil de pauvreté, mais c'est aussi des ménages où on retrouve avec des charges familiales importantes, donc notamment 3 enfants ou plus, et vu que dans notre calcul du niveau de vie, on va prendre en compte la composition du ménage, mécaniquement, ça va faire diminuer le niveau de vie, le fait d'avoir des enfants supplémentaires.
Tristan Picard, vous êtes directeur adjoint de l'INSEE en Bretagne, donc j'imagine que vous aimez beaucoup les chiffres. À quoi ça sert, les chiffres ? Ça donne certes des éléments de compréhension, là, notamment pour les auditeurs qui nous écoutent. Faut aussi comprendre que c'est un point de départ. À quoi ? À l'ajustement des politiques publiques ?
Alors, de manière générale, l'INSEE a vocation, alors on dit en général, traditionnellement, à éclairer le débat public. Donc c'est une vocation d'aider les décideurs publics pour avoir des chiffres, j'ai envie de dire, fiables, sur lesquels baser les décisions, mais plus largement, c'est l'information de l'ensemble des citoyens. Et donc, tout ce que produit l'INSEE est disponible gratuitement sur insee.fr, et donc, n'importe qui peut aller télécharger les données. Dans le cadre plus spécifique du dossier pauvreté dont on parle aujourd'hui, ce qui est important, en fait, c'est que ça a été établi en partenariat donc, avec le ministère des Solidarités, dans une vocation, en fait, d'aider à établir donc, ces pactes des solidarités, et en particulier, en fait, le fait de disposer de données à des niveaux très fins, donc comme les intercommunalités, avec ces différents profils de ménages pauvres, ça permet en fait d'adapter les politiques publiques. Si je prends un exemple peut-être pour que ce soit plus facile, on constate qu'un des profils qui ressort, ça va être des ménages donc, qui ne travaillent pas et qui sont propriétaires de leur logement. Et donc ça, on va les retrouver notamment dans le centre Bretagne. Ces ménages-là, dans un contexte de transition écologique, on se dit qu'ils ne vont probablement pas avoir les ressources nécessaires pour faire des travaux, par exemple pour refaire l'isolation ou changer leur mode de chauffage, et donc ils risquent de se retrouver en difficulté par rapport à tous les enjeux qu'on a actuellement. Donc on voit qu'il pourrait y avoir besoin de faire des ajustements spécifiques là-dessus. Un autre exemple, si on prend les familles monoparentales, on va beaucoup les retrouver dans les grands centres urbains, donc comme j'expliquais tout à l'heure. Et en fait, là, l'enjeu qu'il y a pour eux, ça va être notamment le mode de garde. Parce que ces personnes, c'est difficile de faire garder son enfant quand on est seul, etc. Et donc, c'est la question, c'est que sur ces zones très fines, finalement, est-ce qu'il y a suffisamment de modes de garde? Et plus spécifiquement, est-ce qu'il y a des modes de garde qui sont adaptés à des horaires décalés, ce genre de choses, pour permettre un retour à l'emploi?
Là, je rajoute un mot. On sait le manque criant de places et d'offres de garde ici, notamment à Rennes et sûrement sur d'autres territoires en Bretagne. Donc, voilà, il faut espérer que les politiques gouvernementales iront dans ce sens en infléchissant leurs politiques publiques sur ce sujet-là. On l'a pas dit, les chiffres qui alimentent cette étude dont on est en train de parler datent de 2020, donc d'avant un tas d'événements qui ont lieu, crise sanitaire, guerre en Ukraine, inflation. Comment est-ce qu'on explique qu'on ne se soit pas servi de chiffres plus récents? Est-ce qu'il n'y a pas du coup une contradiction à construire des politiques publiques sur des chiffres qui datent un peu d'une autre époque presque?
Alors bon, c'est une question qu'on a régulièrement, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, cette étude, en fait, on a vraiment fait le choix d'avoir un panorama qui est sur un niveau très fin et donc qui nécessite d'avoir des données exhaustives. C'est-à-dire, et ça, pour avoir ce genre de données, en fait, il faut déjà qu'elles soient collectées, qu'elles soient ensuite retraitées, ce qui explique en fait qu'on va avoir ce décalage. Après, à un niveau national, l'INSEE est capable de suivre la pauvreté avec une périodicité beaucoup plus courte. Et donc, les principaux chiffres qui ressortent, c'est que finalement, à un niveau global, l'ensemble des Français ne s'appauvrit pas. Alors, ça peut paraître assez étonnant, hein, vu le contexte qu'on a actuellement, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que depuis plusieurs années, on est dans un contexte de progression de l'emploi. Et ça veut dire qu'on a des personnes qui auparavant étaient au chômage qui se retrouvent en activité. Donc, mécaniquement, pour ces personnes-là, il va y avoir une amélioration très nette de leur niveau de vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une diminution potentielle du niveau de vie de personnes qui étaient déjà au chômage ou déjà en activité, mais juste qu'en moyenne, ça peut expliquer pourquoi on a finalement une certaine stabilité de la pauvreté en France.
La présentation de l'étude en début de semaine a notamment été l'occasion pour les associations qui viennent en aide à des publics en situation de précarité de quand même justement prendre ces résultats avec un peu de précaution vu eux, le regard qu'ils ont sur les publics qui sont en augmentation, notamment avec la Fédération du Secours Populaire des Côtes d'Armor qui alerte sur l'augmentation des publics qui fréquentent cette association. On a parlé de pauvreté, on n'a pas dit qu'on parlait de pauvreté monétaire, c'est le terme. L'INSEE travaille aussi, pas que sur la question monétaire, mais sur la condition de vie pour peut-être aussi aller plus dans le ressenti. Ça se passe lors d'autres études, d'autres enquêtes tout au long de l'année?
Donc effectivement, on a différents dispositifs d'observation de la pauvreté en France. L'avantage de la pauvreté monétaire, c'est que ça permet de faire des comparaisons assez faciles, par exemple par rapport à d'autres pays ou entre régions. Mais on est aussi capable de faire de la mesure de la pauvreté, ce qu'on appelle en condition de vie. Alors là, la différence, c'est que ça va être basé sur une enquête, parce qu'on va pas avoir de données administratives qui permettent facilement de faire ça, et donc on va pas pouvoir descendre sur des niveaux fins comme la région, on sera plutôt sur des résultats au niveau France. Mais on a effectivement une enquête dans laquelle on va poser des questions, donc encore une fois avec des enquêteurs qui se déplacent chez les gens, sur les privations matérielles. Donc par exemple, est-ce que vous avez possibilité de payer une semaine de vacances? Est-ce que vous pouvez remplacer un meuble qui est cassé? Est-ce que vous pouvez faire face à une dépense imprévue de 1 000 euros? Et en fait, à partir de là, l'INSEE peut construire un taux en fait de privation matérielle, qu'on peut mettre aussi bien sûr en regard avec le taux de pauvreté monétaire et aussi croiser les personnes qui ont cette problématique de pauvreté monétaire et de privation matérielle, ce qui a permis en 2018 de définir un concept de grande pauvreté, donc des personnes en fait qui sont concernées par ces deux situations.
La dernière, elle date du début de l'année, non? Début 2023,
Alors, c'est une enquête qu'on réalise tous les ans. Et effectivement, début 2023, il y a eu une publication sur les résultats 2022.
Et là, on découvre bien qu'à l'échelle nationale, en 2023, le taux de privation matérielle et sociale n'a jamais été aussi élevé, en tout cas depuis qu'il est mesuré, c'est-à-dire en 2013. 14% des personnes vivant en logement ordinaire ne peuvent pas couvrir les dépenses liées à au moins 5 éléments de la vie courante, et ce parmi 13 critères proposés, ce qui représente quand même 9 millions d'habitants de la France métropolitaine.
Je vous représente, Tristan Picard, vous êtes directeur adjoint de l'INSEE Bretagne, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, qui vient donc de publier là en début de semaine une étude sur la pauvreté en Bretagne. C'est à retrouver dans le détail en ligne sur le site insee.fr. Merci beaucoup.
Merci.
It's all in your head, and
Bass, Jan et le morceau No More Swamp sur Canal B. C'est une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann Barbotin, notre programmateur ici à Canal B, et qui est à retrouver sur un album Back to the Swamp. Ça sortira le 10 novembre prochain chez Fire Records. C'est le troisième disque de ce trio expérimental post-punk installé à Londres. Vous êtes en train d'écouter La Reine, l'émission d'info locale de Canal B, peut-être sur notre site canalb.fr, sans doute sur la FM, branchée sur le 94.0. Et depuis le printemps, eh bien, Canal B est aussi en écoute sur le DAB, la radio numérique terrestre. Allez, on continue avec le reportage du jour. Un reportage réalisé par Antoine Blécon, bénévole à Canal B, et qui vient de lancer son podcast La vie au grand air. Il est disponible sur pas mal de plateformes de podcast et diffusé donc dans l'émission d'info locale La Reine. Antoine, il raconte la vie dans les campements de personnes à la rue, souvent exilées, et aujourd'hui dans le deuxième épisode, découverte du campement de Morpa, où vivent depuis mi-septembre 140 personnes, dont 50 enfants. Une partie de ces habitants est actuellement mobilisée dans une opération d'occupation de bâtiments rennais, évacués jeudi matin du conservatoire du Blône. Ils étaient, en tout cas ce matin, au TNB, le Théâtre National de Bretagne. Allez, le reportage d'Antoine, c'est maintenant.
Vous êtes en communication avec le 115 d'Ille-et-Vilaine, ligne d'urgence sociale pour personnes sans abri. Les données que vous nous transmettez seront saisies dans une application nationale.
Bonjour ! Et là, vite, la tente.
C'est difficile à dormir tout le temps ici. Il n'y a pas à l'école, j'ai qu'il âge 20 ans.
La vie au grand air. un podcast des campements rennais. Une émission proposée par Antoine Blécon. Épisode 1, le tour du propriétaire. Aujourd'hui, on part faire le tour du propriétaire. Dans le tout nouveau campement de Morpa, environ 150 personnes sont installées. Elles sont guinéennes, afghanes, mongoles, géorgiennes ou albanaises. Elles ont tous les âges, tous les statuts administratifs et presque toutes les histoires possibles. Alphonse nous sert de guide. Il est congolais, il vit au campement avec sa fille de 7 ans et comme tout le monde ici, il espère pouvoir trouver un logement dur avant l'hiver. Pour les râleurs, il convient peut-être de préciser qu'il détient une carte de séjour de 10 ans et qu'il se trouve donc en situation régulière.
Le camp situé tout près de l'école, dans le lycée de Moépa, c'était un joli parc. Et parce qu'il y a de la rimiel et il y a aussi aération. Je dis aération parce qu'il n'y a pas beaucoup des arbres, il n'y a pas beaucoup d'ombres. Et comme à Gaël, on était au milieu des arbres. Et Mina, c'était un beau endroit. Et je m'appelle Alphonse. Et j'étais dans la rue de Sainte-Anne. Après, j'ai appelé Utopia. Utopia m'a donné la tente pour la rue dans le cas de Gaël. Après quelques semaines, on nous a déménagé depuis Gaël jusqu'au Morépa. C'est là où nous sommes aujourd'hui.
Donc c'est déjà combien de à vue de nez comme ça, combien il y a de gens, combien il y a de tentes, est-ce que c'est un gros camp, est-ce que c'est un petit camp?
Oui, c'est un gros camp par rapport à jamais. Si vous comptez les tentes, on dirait qu'il y a une vingtaine de tentes, mais il y a aussi les enfants qui sont dans les tentes. Il y a une famille qui est nombreuse. Une tente est conseillée beaucoup de personnes, les parents et les enfants. C'est-à-dire que si on compte une trentaine, environ trentaine de tentes, on peut compter une soixantaine ou 70 personnes dans le camp entier. C'est-à-dire que c'était un gros camp.
Dans le camp, c'est plutôt des familles qui vivent.
Oui, c'est vrai. Plus de 95%, ce sont des familles qui sont avec les enfants.
Et quand vous dites vous, c'est parce que vous n'êtes pas tout seul?
Oui, je ne suis pas tout seul. Nous sommes nombreux, nous sommes des différentes nationalités, des Géorgiens, des Romaniens, des Congolais, des Tchadiens, des Ivoiriens. Sont des Albanais, des Géorgiens. Des quoi?
Des Albanais là.
Avec la langue. Ils utilisent les langues différentes que nous. C'est pourquoi ils campent à côté là.
Ils se regroupent par communauté.
C'est ce qui cause aussi la différence des cuisines. Okay. Le groupe des Géorgiens, ils ont leur tente de cuisine. S'ils entrent, ils se comprennent.
Ouais.
Ils se comprennent. Maintenant, il y a aussi les Africains. S'ils entrent, il y a différentes langues en Afrique, mais ils se comprennent en utilisant le français, le swahili, mais surtout le français, parce que tous les Africains qui sont dans le camp parlent le français.
Okay.
Oui, c'est pourquoi... Vous voyez qu'il y a une partie des Albanais, des Géorgiens, une partie de l'Afrique. Ils sont groupés ensemble pour faire la cuisine ensemble. S'il y a un problème qui peut surgir, ils utilisent les langues pour résoudre le problème.
C'est la cuisine de quoi? Des Géorgiens, là? Des Albanais.
C'est la cuisine des Albanais, oui. Voilà. C'est vrai.
Et il y a quoi, du coup, dans cette cuisine-là?
Il y a les machines et les gaz.
La gazinière, ouais.
Gazinière et aussi le four à gaz.
Ok. Et il fonctionne le four?
Convenablement.
Ok.
Il fonctionne convenablement. Okay. Avec les ustensiles culinaires comme les casseroles, vous voyez comme quoi, les boîtes, les boîtes.
Ouais, il y a une boîtes, étagère avec de la nourriture dessus.
Des nautiles dessus, tout, avec tout. Okay. Avec quelques annonces. Des rogements, du papier pour tous. Lundi 18 septembre, 16h30, place de la mairie. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend le réfugié en France doit avoir des papiers sans toutefois passer dans beaucoup de procédures et aussi des questions très compliquées. Parce que si on les garde le niveau des gens qui sont là, si on ne peut pas les garder les gens, parce que les niveaux sont différents, mais on peut les garder seulement quelqu'un qui prend le réfugié en France et on lui donne les papiers. Aussi de logement, parce que si on arrive dans le temps de la foi, du hiver. Mmh.
Ouais. Là, on arrive en hiver, ouais, c'est vrai.
Ich kann zu dritt um den Platz.
Les tentes, elles ont quasiment toutes des bâches. Et alors pourquoi elles ont des bâches du coup? Pourquoi il y a des bâches par-dessus les tentes?
Oui, c'est chaque fois on prévoit que s'il tombe beaucoup, pour éviter que l'eau n'entre pas dans les tentes, on met les bâches c'est pour augmenter la protection. Ouais. Oui, pour que l'eau n'entre pas, s'il lui plaît beaucoup, pour que l'eau n'entre pas dans les tentes, pour que les habits, pour que les autres choses, les papiers utiles comme les rives de la préfecture, ceux qui sont dans le tas de la demande d'asile, leur papier ne mouille pas. À propos de l'hygiène, c'est bien que c'est un problème comme douche. Chaque fois, il faut qu'on nous déplace pour aller voir là où on peut trouver la douche. Aussi, pour la propreté des toilettes, il faut qu'il y ait les papiers des toilettes, il faut qu'il y ait les brosses pour nettoyer les toilettes. Il n'y en a pas.
Ah, il n'y a pas de brosse.
Il n'y a pas de brosse, il n'y a pas de papier. Ça dit que il faut ça. Okay. Sinon, c'est un problème dans la toilette. Il n'y a pas la douche. On ne peut pas faire la douche derrière, à l'extérieur. Il y a les mamans qui sont âgées et les papas qui sont âgés. C'est-à-dire que même l'eau froide aussi. Mais on nous a donné les bidons. Les bidons qu'on peut utiliser comme le robinet. Et on l'utilise comme le robinet. Mais parce que l'eau est très loin, de là où le cahier, il faut le bidon qu'on utilise comme le robinet, qu'on met sur la table pour qu'on puisse faire la propreté des assiettes, des casseroles, ainsi de suite, et la vaisselle à l'intérieur de la cuisine.
L'alternative à la douche, en fait, c'est de se laver dans une bassine avec de l'eau froide, l'eau froide des jerricanes, quoi.
Oui, l'eau froide pour les petits, de 10 mois, depuis 7 mois, il y a les enfants de 7 mois, 10 mois, ça peut provoquer la maladie des petits, des pneumonies, ainsi de suite. Mais peut-être les adultes peuvent essayer, mais... Les enfants, on est nombreux ici. Il y a beaucoup d'enfants, des petits-enfants. Et on ne peut pas utiliser l'eau froide. C'est pourquoi c'est un problème.
C'était La Vie au Grand Air. Merci à Alphonse pour son temps et ses explications.
Surtout le week-end, il y a beaucoup de visiteurs qui circulent. Il y a les enfants qui jouent. Il y a là-bas le parc là-bas, il y a les instruments de gymnastique. Il y a beaucoup déjà pendant le week-end. C'est-à-dire à partir de là, ils n'entrent pas dans le camp, ils entrent aux alentours dans le camp pour faire avec les enfants, les parents, avec les enfants, les visiteurs, pour faire les jeux et après ils entrent. Ils nous restent ici.
Ils ne viennent pas vous voir.
Oui. Il regarde ici, si vous rencontrez ici, il vous demande pourquoi vous êtes là. On est là pour la solution, on attend la solution de 115.
Ça dos, tres, sí.
Sur Canal B, un morceau interprété par les Espagnols de The Freak Fandango Orchestra. C'est le choix musical d'Antoine Blécon, bénévole pour Canal B et auteur du nouveau podcast La vie au grand air, dont on vient d'écouter le deuxième épisode. Le morceau qu'il a choisi, il est tiré d'un EP qui date de 2011, Tales of a Dead Fish, les contes d'un poisson mort. Vous êtes toujours en train d'écouter La Reine, l'émission d'info locale de Canal B. Si vous avez, tiens, une action ou un événement à relayer auprès des auditeurs, que ce soit avec une association, un collectif ou autre type de structure, tant qu'il ne s'agit pas d'une proposition purement lucrative, vous pouvez m'en informer par email à l'adresse lucie@canalb.fr. Et puis ensuite, moi, je vous propose soit de venir en discuter ici en studio lors d'une interview, pourquoi pas de venir à votre rencontre lors d'un reportage, ou bien de l'annoncer sous forme de recommandation. Et justement, c'est l'heure de la recommandation du jour qui arrive à chaque fois en fin d'émission. Et j'ai aujourd'hui deux conseils pour vous. Alors plutôt si vous êtes fan de nos amis les bêtes. Bon déjà, Insolite, saviez-vous que la région rennaise compte une des deux plus anciennes associations pour furets de France ? Les Fufus de l'Ouest, oui c'est son nom, organise ses 18e portes ouvertes. Rendez-vous samedi 7 octobre de 10h à 17h au centre de loisirs de Cesson-Sévigné. En plus de pouvoir en adopter un furet, on ne sait jamais, une boutique sera installée sur place et les profits seront reversés à l'association organisatrice, mais aussi à trois autres associations qui recueillent chiens et chats abandonnés. On continue nos recommandations en toute logique à la SPA, Société Protectrice des Animaux, une structure qui est référente en matière de protection animale et qui organise ses portes ouvertes samedi 7 et dimanche 8 octobre. 8000 animaux attendent actuellement dans les 64 refuges et maisons de la SPA en France, notamment à Rennes donc, où tout un programme d'animation est prévu pour le week-end. Samedi et dimanche de 10h à 17h, le public pourra assister à des démonstrations en présence d'éducateurs et comportementalistes canin, découvrir aussi les soins coopératifs ou encore la communication animale. Et puis pour les humains, il y a un food truck au passage. Le programme complet de l'événement, à l'échelle nationale en tout cas, est à retrouver sur le site internet la-spa.fr.
La Reine, c'est terminé. Une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pourquoi pas s'abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.